Nous tous qui sommes ici, souvenons-nous que nous sommes tous frères et sœurs, invités à la même célébration, invités au même festin, pauvres ou riches, jeunes ou vieux, malades ou bien portants, tristes ou joyeux. Quel que soit l'itinéraire qui nous a conduits jusqu'ici, à nous tous sont données la vie, la joie, la paix en Jésus-Christ. Et pour vivre ce temps en commun, je vous propose de vous rassembler avec le premier chant indiqué dans notre nouveau recueil liturgique pour le temps de la Passion. Seigneur, que tous s'unissent, quel plus beau programme que celui-ci, levons-nous pour chanter. Avec les mots du psalmiste, nous pouvons élever notre louange en ces termes. Je t'aime, Seigneur, toi qui es ma force, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit le Seigneur, car tu élargis le chemin sous mes pas. Et mes pieds ne chancelent point. Tu m'as mis au large, tu m'as délivré à cause de ton amour pour moi. Amen. Poursuivons notre louange par le chant du psaume 62. Dans le psautier français, au psaume 62, nous chanterons les strophes 1, 3 et 5. Prenons place. Une expression de la volonté de Dieu à notre égard se trouve dans le sermon que Jésus fit sur une colline de Galilée. J'aimerais vous faire entendre ce matin ce que nous appelons les béatitudes, car c'est une liste de sentences qui proclame un état de bonheur. André Chouraki ne traduit pas par « heureux », il traduit par « en avant ». C'est un bonheur actif, dynamique. Donc Jésus est entouré d'une foule, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, et ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. » Frères et sœurs, méditons ces paroles par le chant du cantique proposé. Nous recueillons dans la prière. Tels que nous sommes, tu nous vois, Seigneur, souvent promptes à nous rassasier de pain et à nous boucher les oreilles. Tu nous vois promptes à te demander des miracles pour soulager l'homme sans qu'il nous en coûte rien. Tu nous vois, Seigneur, promptes à convoiter tout pouvoir, tout savoir, tout bien devant les hommes. Et il est rare, finalement, que tu nous vois comme les humiliés du souffle, comme ceux qui font preuve d'humilité, de miséricorde, ceux dont l'élan pour la justice dépasse toute chose. Alors sur les chemins de Jésus au désert, tu as montré ce que pouvait signifier être délivré de ces tentations du pouvoir, de ces tentations de la gloire. Délivre-nous, délivre-nous en nous comblant de ta parole. Amen. Frères et sœurs, entendons à nouveau que Dieu pose sur chacun de nous un regard d'amour, un regard de Père, non pas un Père qui corrige en fouettant, en critiquant, en humiliant, mais un regard de Père qui accueille notre repentance, un regard de Père qui nous invite à recevoir et à vivre avec lui tous les jours son pardon et son amour. Alors, frères et sœurs, levons-nous pour chanter notre reconnaissance. Place. Sauf Maxime, que j'ai le plaisir de faire venir ici même près de ce baptistère. Maxime qui demande ce matin le baptême. Pour nous, c'est une joie car c'est une manière de vous accueillir et de faire droit aussi à votre cheminement spirituel, Maxime. Votre désir de devenir membre de l'Église, non pas simplement de cette Église particulière, mais de l'Église que le Christ suscite. Qu'est-ce que le baptême ? Le baptême est d'abord le signe d'un amour au bénéfice duquel nous sommes. Et ce matin, nous vous disons cela, Maxime, cet amour que vous avez perçu, nous attestons qu'il s'adresse à vous personnellement et qu'il vous aide à vivre. Atteindre un niveau d'existence qui permet à chacun de pouvoir accomplir son histoire, pouvoir accomplir sa destinée, dit-on parfois. C'est l'assurance que, par ce baptême que nous vous disons, vous pouvez toujours retrouver ce capital d'amour dans lequel vous pourrez puiser en toutes circonstances, à la fois pour intensifier votre vie lorsque elle s'offre par ses plus belles facettes, que trouver les éléments et l'énergie nécessaires pour pouvoir repartir de l'avant lorsque la vie a tendance à nous arrêter sur place. Alors, dans la liberté que Dieu nous donne de rentrer ou non dans son alliance, vous répondez à cet amour en demandant le signe du baptême, et à celui qui dit « Tu es mon enfant bien-aimé », vous lui répondez dans votre cœur et aujourd'hui de façon publique face à l'Église dont nous avons ici un beau visage « Tu es mon Dieu » et mon Père. Maxime s'est préparé à ce moment de baptême dans l'étude, la méditation et la prière, des mots très religieux pour dire ce dialogue entre votre vie, à la fois votre vie familiale, votre vie amicale, ce que l'on peut découvrir à travers le quotidien. Et le lycée Henri IV est riche d'un quotidien qui ne manque pas de surprises, d'émerveillements, mais aussi de sollicitudes. Et puis un dialogue avec des choses plus fondamentales, ce que vous avez découvert à travers vos études littéraires, mais aussi avec vos lectures qui permettent de mettre des mots sur ce dont nous avons l'intuition et qui permettent de rendre compte, comme ça va être le cas tout à l'heure, rendre compte de son espérance, exprimer ce qui nous préoccupe de manière ultime. Voilà, tout ce chemin parcouru jusqu'à maintenant nous porte dans la joie, même si pour l'instant elle est assez réservée sur votre visage, mais voilà, ça s'améliore. Pour nous, il s'agit aussi d'être reconnaissant parce que vous êtes pour nous témoins, et dans une certaine mesure, vous êtes pour nous aujourd'hui pasteur, prédicateur, exprimant ce qu'est une grâce qui s'incarne. C'est un chemin qui ne s'arrête pas ce matin, c'est un chemin qui est ouvert devant vous. La foi parle de perspectives qui s'ouvrent, et c'est bien dans ce sens-là que vous comprenez le baptême. Et je vous invite, frères et sœurs, à nous recueillir un instant avant d'entrer dans le vif du sujet. Seigneur, selon ta promesse, envoie ton esprit de lumière et de vie. Accueille maintenant Maxime, qui va être marqué du sceau de ta grâce, exprimant son entrée plénière dans ton alliance. Qu'avec le Christ, il devienne chaque jour une nouvelle créature. Nous te le demandons par Jésus-Christ, lui qui nous a montré ce que signifiait être ton Fils, être Sauveur. Amen. Les baptêmes qui se célèbrent de génération en génération s'appuient sur ces dernières paroles de l'Évangile selon Matthieu, l'occasion pour l'évangéliste d'exprimer ce que Jésus transmet à ses disciples. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai enseigné. Et cela se conclut par une promesse, « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Désormais, le baptême signifiera pour Maxime qu'il n'est pas seul sur ce chemin d'existence qu'il a emprunté. Ce baptême vous appellera à demeurer en communion avec Jésus-Christ, c'est-à-dire avec cette puissance d'amour qui ne faiblit pas, quelles que soient les circonstances. Un chemin qui vous est offert pour que vous puissiez découvrir toujours plus pleinement ce que signifie la joie d'une vie consacrée. Un cheminement confiant grâce à la présence active de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire de cette capacité du divin à nous faire entrer en relation avec d'autres que nous-mêmes. À nous tous, frères et sœurs, un baptême dit quelque chose. Il rappelle aujourd'hui la grâce qui nous a été faite si nous avons été nous-mêmes baptisés. Et le baptême éclabousse largement au-delà du baptisé, au-delà de la communauté, le sens qu'il produit, le sens qu'il dit, le sens qu'il affirme, en disant que nous sommes toutes et tous au bénéfice d'une grâce, d'une bienveillance qui nous met en chemin et qui nous accompagne sur le chemin, respectant toujours le rythme de notre marche, respectant nos pauses, respectant nos élans et nous donnant du cœur à l'ouvrage. C'est pourquoi, dans la joie et dans la reconnaissance, nous entourons Maxime, que nous nommons frère. Avec lui, nous confesserons notre foi et nous affirmons notre volonté de nous consacrer toujours à nouveau au Seigneur pour un service fidèle. Alors Maxime, pour être certain que tout cela se fait en toute liberté, ce qui est quand même l'une des caractéristiques de la vie chrétienne, je vous demande tout de même ce que vous demandez.
Je demande le baptême.
Maxime, je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maxime, Dieu vous conduira sur le chemin de vie, dans sa paix, dans sa force, dans sa joie. Amen. Avec l'Église chrétienne, voulez-vous confesser votre foi ?
Oui, je le veux.
Maxime a donc préparer une confession de foi qui sera notre confession de foi pour ce dimanche. Et je vous invite donc à vous lever pour vous associer du cœur à ces mots qu'il a choisis.
Je crois en Dieu, notre Père. Père de toutes choses sur terre, Dieu a créé l'homme à son image, l'invitant ainsi à partager la gloire qui n'appartient qu'à lui seul, et à participer à l'œuvre créatrice qu'il a initiée. Père aimant, son amour gratuit et inconditionnel nous fonde dans l'égalité et la liberté. Par sa foi en l'homme, manifestée dans sa grâce, Dieu nous invite à avoir foi en nous, en soi, comme en autrui. Je crois en Jésus-Christ, notre frère et notre sauveur. Fils aîné de Dieu, nouvelle arche d'alliance entre nous et notre Père, il est le Verbe incarné, venu nous témoigner l'amour de Dieu, et nous montrer qu'il existe un chemin construit dans la confiance, la foi et la paix. Jésus-Christ nous convie à la réconciliation entre les hommes par la réconciliation avec Dieu, qui nous invite à accueillir dans nos vies nos âmes et nos chairs. Sa souffrance et sa résurrection nous montrent que la foi abroge toutes les limites et surmonte toutes les épreuves. En Jésus-Christ, Dieu nous encourage à ne jamais abdiquer, car rien n'est impossible à Dieu. En Jésus-Christ, manifestation de notre condition mortelle comme de l'éternité promise, nous sommes invités à dépasser notre finitude dans l'infini et notre désespoir dans l'espérance. En Jésus-Christ, nous voyons que l'existence de la nuit n'entamera jamais la réalité du jour. Je crois en l'Esprit Saint, souffle de vie et d'espérance. Souffle créateur qui parcourt la terre, il est la manifestation de la puissance de Dieu en mouvement qui anime le monde, nous appelant à toujours avancer pour poursuivre l'infiniment inachevé. Il est l'irruption parmi les hommes et en chacun d'entre nous, de l'énergie divine qui nous fait marcher avec Dieu. L'Esprit Saint abroge nos peurs. Il nous inspire et nous invite à imiter notre Père par une audace créatrice chaque jour répétée avec confiance et foi en Dieu. Je crois en l'Église des hommes qui, au-delà de nos différences et malgré nos défaillances, nous rassemble et nous rapproche dans la célébration de la vie. Je crois en l'homme, fidèle et responsable, capable, s'il assume ses devoirs et sa liberté, de transformer par sa volonté le monde tout entier en royaume de paix et de justice, dans l'amour de Dieu, la protection de Jésus-Christ et le souffle du Saint-Esprit.
Je vous invite à prendre place. Maxime, croire en Jésus-Christ, c'est mettre sa confiance en lui car il est notre Sauveur et c'est s'engager à le suivre car il est notre Seigneur. Voulez-vous donc, avec le secours du Saint-Esprit, vous efforcer de vivre en chrétien, en aimant Dieu de tout votre cœur et votre prochain comme vous-même ?
Oui, je le veux, que Dieu me soit en aide.
Toute la vie de l'Église, en particulier la lecture de la Bible, la prière, le culte, la communion, sont des moyens que Dieu nous donne pour persévérer dans la foi que vous venez de confesser et pour être fidèle au chemin que vous avez choisi aujourd'hui en pleine liberté, sachant que ce chemin ne s'arrête pas évidemment au seuil de cette Église, mais au contraire, qu'il nous encourage à vivre pleinement au cœur du monde où Dieu nous donne de vivre. Maxime, vous avez reçu le baptême, signe de l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Vous avez confirmé cette grâce par votre foi. Nous vous disons à quel point vous êtes effectivement membre de l'Église, à quel point vous avez votre place, bien entendu, au repas du Seigneur, et que le Saint-Esprit vous affermisse dans cette foi, vous accorde ses dons les meilleurs et vous les renouvelle jour après jour. Amen. Je vous invite à regagner votre place. Chers frères et sœurs, ce n'est pas parce que jeudi dernier c'était la Saint-Valentin que je vais vous lire le chapitre 13 de la première épître de Paul aux Corinthiens, mais parce que c'est le désir exprimé par Maxime. C'est donc dans la première épître de Paul aux Corinthiens que je vous lis ces versets 1 à 13. Si je parlais les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour patiente, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, ne fanfaronne pas, ne gonfle pas, n'agit pas avec inconvenance, ne cherche pas son propre intérêt, n'irrite pas, ne calcule pas le mal, ne se réjouit pas de l'injustice, mais se réjouit dans la vérité. L'amour endure tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour ne chute jamais. Que ce soit les prophéties, elles seront abolies. Les langues, elles cesseront. La connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière énigmatique, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Frères et sœurs, il ne vous aura pas échappé que notre organiste a récupéré notre grand orgue et qu'il y a donc quelques jeux supplémentaires dont il peut se prévaloir. Autant vous dire que pour chanter ce cantique 278 aux strophes 1, 2 et 4, il va falloir que nous adoptions plutôt la version Westminster que la version protestant enfouie derrière son recueil de chants. Nous nous levons pour chanter cette foi qui renverse devant nous les plus hautes murailles.
Thank you.
Donne-nous ton esprit quand nous cherchons sans trouver, quand nous écoutons sans entendre, quand nous peinons sans récolter. Donne-nous ton esprit, alors ta parole nous fera vivre. Nous trouverons et nous serons trouvés, car nous entendrons la voix de nos frères. Chers frères et sœurs, il est vrai qu'après quelques excès de la Saint-Valentin, l'amour, ça peut faire un peu, ne me passez pas l'expression, cucu la praline. Ça ne fait pas toujours très sérieux ensuite de dire « Dieu t'aime, aimons-nous les uns les autres ». Et l'amour est pourtant au cœur de l'Évangile. Et c'est même le cœur de l'Évangile, et c'est précisément ce que Paul convoque ici dans ce texte. Et il me semble que si Paul fait appel à l'amour, c'est par opposition à ce qu'il entend combattre ici même, dans cette première partie de ce texte que nous avons entendu, le totalitarisme. Ce qu'il écrit, notre brave Paul, c'est que nous pouvons avoir le sentiment de posséder la vie en totalité, parce que nous possédons toutes les langues, aussi bien les langues des hommes que les langues des anges, c'est-à-dire si nous avons une possession totale des langues, que nous possédons tous les savoirs, toutes les sciences. Mais en fait, si nous n'avons pas d'amour, nous sommes vides, nous sonnons creux, comme certains qui veulent faire les cloches dans d'autres édifices cultuels. Nous pouvons avoir le sentiment qu'en donnant tous nos biens, nous atteignons la plénitude, le sommet de la vie chrétienne, qui consisterait dans un sacrifice total de tout ce que l'on possède, le sacrifice absolu de tous ces biens matériels. En réalité, si nous n'avons pas d'amour, cela ne mène à rien. L'apôtre Paul dresse comme cela une liste des totalités qui peuvent nous donner le sentiment d'une plénitude. La liste de toutes ces totalités qui, à vue d'homme, peut faire le tout d'une vie. Et cela pour mieux mettre en évidence que sans l'amour, tout cela n'a pas beaucoup de sens. Oui, on peut être polyglotte, voire porter en soi toutes les langues, si on n'a pas une personne avec qui communiquer, cela n'a pas beaucoup de sens. On peut être une encyclopédie sur pattes, si on n'a pas une personne à qui rendre le monde un peu plus compréhensible, cela rend tout à fait vain notre savoir, et ainsi de suite. Il me semble que l'apôtre Paul nous met en garde contre ce principe de totalité, parce que la totalité nous fait courir le risque de la suffisance. La suffisance, c'est le sentiment que nous possédons tout, voilà, que tout est acquis définitivement. Et surtout, que nous avons une maîtrise totale des événements. Tout est entre nos mains, donc nous maîtrisons tout. Ainsi, l'apôtre Paul dénonce la foi, une foi qui serait telle, semblable à cela, et qui nous permettrait de déplacer les montagnes. Alors c'est étonnant parce que par ailleurs, Jésus semble dire que le but, ou en tous les cas le critère d'une vie chrétienne authentique, c'est d'avoir une foi à soulever les montagnes. Et même une foi grande comme une graine de moutarde devrait pouvoir faire cela. Mais quel est le risque d'une foi pareille si elle n'est pas animée par l'amour? Eh bien, si Paul ne veut pas de cette foi capable de tout, mais dénuée d'amour, c'est parce que nous risquons de pouvoir effectivement soulever des montagnes, et que sans amour, nous risquons de les faire retomber sur le coin de la figure du premier venu. Être en situation de monopole, en étant dépourvu d'amour, c'est faire courir les plus grands dangers à ceux qui sont autour de nous. Car ce que nous possédons en totalité peut devenir une arme redoutable. Nous pouvons bien entendu penser à la détention d'un arsenal d'armes de destruction massive, mais ça c'est une illustration trop évidente. Pensons à d'autres monopoles, à d'autres totalités. Les moyens de communication, les moyens de transport, les services d'hygiène, les services de soins. Si la folie nous prend de faire un mauvais usage de ce que nous détenons totalement, ou si la folie nous prend de ne plus en faire aucun usage et de bloquer quelque chose, eh bien cela devient une arme terrible. Il en va de même de tout pouvoir qui, détenu dans les mains d'une seule personne ou d'un seul groupe, devient une mécanique qui a le pouvoir d'écraser quand bon lui semble. Si Paul dénonce les totalités dépourvues d'amour, c'est parce qu'elles conduisent au totalitarisme qui peuvent exercer librement leur tyrannie. Et c'est pour cela que, en général, les tyrannies n'aiment pas l'amour. Parce que le propre de l'amour, c'est de briser la totalité en exprimant autre chose que le tout. L'amour brise la totalité parce qu'il nous donne l'intuition de l'infini, qui évidemment nie le principe de totalité. L'amour est cette intuition de l'infini, cette intuition de la transcendance qui ruine les totalitarismes qui, eux, nous installent dans la certitude de la suffisance, que tout est là, définitif, qu'il n'y a plus rien à faire. L'amour, au contraire, ouvre des perspectives, nous relie à plus que nous-mêmes, nous fait aimer activement au lieu de nous enfermer dans un état d'autosatisfaction. Et parmi les tyrannies qui écrasent l'homme, il en est une redoutable qui a la couleur de l'amour, mais qui n'est pas à l'amour, c'est l'amour. Non pas l'amour dont parle Paul, l'amour dont parle Paul, c'est l'agapé. Mais pour être plus précis, le sentiment amoureux. La description de l'amour telle que Paul la réalise dans les versets 4 à 8 présente l'amour non pas comme un état, mais comme un acteur. Selon Paul, l'amour agit. L'amour est sujet de toute une série de verbes qui ne sont pas des verbes d'état, mais des verbes d'action. Paul n'aurait probablement pas encouragé une fête des amoureux. Il aurait plutôt encouragé une fête des aimants, ceux qui aiment activement. Parce que l'amour dont il est question ici n'est pas synonyme d'apprécier. L'agapé, ce terme grec qui désigne l'amour dont Dieu est la source, n'est pas cet amour qui nous fait dire en français qu'on aime un tableau, un paysage, une silhouette ou l'odeur des croissants, quand ce n'est pas l'odeur du napalm au petit matin. L'amour n'est pas un sentiment. L'amour n'est pas un état. L'amour n'est pas une sensation, ni une émotion, sous la plume de l'apôtre Paul. L'amour est dynamique, l'amour agit, l'amour entreprend. Et c'est d'ailleurs ce qui lui permet de briser les totalitarismes. Ces totalitarismes qui s'efforcent de maintenir les choses en l'état, afin de préserver la totalité de ce qui fait sa raison d'être. Parce qu'il est dynamique, parce qu'il agit, parce qu'il récuse même l'idée de totalité, l'amour est ce qui nous arrache à nos replis sur nous-mêmes. Cette autosuffisance déjà évoquée, ce gentil ronron dans lequel nous nous enfermons lorsque la force de l'habitude vient stériliser toute curiosité de ce qui se vit au-delà de notre univers. De ce point de vue, la religion, évidemment, peut constituer un tragique enfermement lorsqu'elle prétend détenir la totalité de la vérité. C'est ce que dénonce avec talent le théologien Emerson, dans un récit qu'il fait d'un culte auquel il a assisté. C'est dans son discours aux étudiants de Harvard, ceux qui un jour devront prêcher. Texte redoutable pour tous les prédicateurs. C'est peut-être ce qui est en train de vous traverser l'esprit, alors je vous le livre. J'ai entendu une fois un prédicateur qui me donnait fortement envie de me dire à moi-même « Je n'irai plus jamais à l'église ». Les hommes vont, me disais-je, là où ils ont l'habitude d'aller. Sinon, aucune âme n'y serait entrée cet après-midi-là. Il continue ainsi. Une tempête de neige s'abattait autour de nous. La tempête était bien réelle, mais le prédicateur n'était que spectral. Et l'œil était frappé par ce triste contraste entre lui et, à travers la fenêtre, juste derrière lui, le beau météore de neige. Il avait vécu en vain. Il ne prononça aucun mot qui donna à penser qu'il ait jamais ri ou pleuré, qu'il ait été marié ou amoureux, qu'il ait été l'objet d'éloges, de tromperies ou de peines. Aucun de nous n'aurait pu affirmer qu'il ait jamais vécu ou agi. Le grand secret de sa profession, qui est de convertir la vie en vérité, il ne l'avait jamais appris. De toute son expérience, pas un seul fait n'était passé dans sa doctrine. Fin de citation. Le chrétien n'est pas coupé du monde. Dieu aime le monde, le croyant aime le monde. Il ne l'aime pas comme le monde aime, à grand renfort de sentiments et de satisfaction. Il aime le monde en prenant soin de lui, patiemment, rendant service, sans jalouser, sans fanfaronner, sans gonfler, sans irriter, sans calculer le mal, sans se réjouir de l'injustice, mais en se réjouissant tout de même avec la vérité, endurant continuellement, croyant continuellement, espérant continuellement, supportant continuellement, ne succombant jamais. Parce que la force des chrétiens et des croyants en général, c'est de ne pas croire que la vie amoureuse devrait être simplement un sentiment. Que l'amour ne devrait pas être ravalé au seul état de sentiment. Parce que, du coup, on peut aimer sans être amoureux. Et c'est ça la force des croyants, c'est que nous pouvons aimer sans être nécessairement amoureux. Aimer ses ennemis, on se dit, c'est impossible. C'est impossible si on considère qu'il faut d'abord être amoureux de ses ennemis pour les aimer. Mais il n'est pas question de cela. On peut aimer ceux qui ne sont pas aimables non plus. parce que l'amour que l'on porte à quelqu'un ne dépend pas des qualités ou des dispositions de ce quelqu'un. Et c'est lorsque nous aimons vraiment, selon ce que décrit l'apôtre Paul, que nous rendons non seulement tangible mais aussi crédible l'amour de Dieu qui dès lors cesse d'être un peu cuculapraline pour devenir un acte extrêmement sérieux qui prend chaque être humain au sérieux. Là où beaucoup s'inquiètent de savoir s'ils sont aimés, et ce qui devient une quête désespérée du coup, parce qu'en permanence on veut vérifier que l'autre nous aime totalement, qu'il ne pense qu'à nous, que nous sommes tout son univers. Eh bien, au lieu de cette quête désespérée, le croyant entend, notamment à travers ce qui est dit lors du baptême, que nous sommes aimés de manière radicale par Dieu, qui nous rend capables à notre tour d'aimer, de prendre soin des autres, de tous les autres, de reconstruire ce qui a pu être blessé par l'homme, d'être effectivement à l'image de Dieu, créateur. Et cela, sans être soumis à la tyrannie des sentiments. Pour tordre une formule connue, ce n'est pas l'amour qui rend aveugle et le mariage qui nous rendrait la vue. C'est le sentiment amoureux qui rend aveugle et l'amour qui rend la vue. L'amour, l'agapé. Car c'est par là que s'accomplit le texte de Paul, l'amour qui permet de connaître vraiment. L'amour, écrit Paul, c'est ce qui nous permet de passer d'une connaissance partielle à une connaissance parfaite. Il faudrait peut-être dire plutôt une connaissance ultime, parce que c'est le mot grec teleios qui est utilisé ici. Teleios qui signifie l'accomplissement, mais aussi la fin, la destination. En utilisant la métaphore du miroir, Paul déclare que pour le moment nous ne voyons que de manière énigmatique. Pas très clair tout ça. Alors évidemment, à l'époque, vous me direz, les miroirs n'avaient pas cette qualité de réflexion qu'ont les miroirs de nos jours. Certes, mais ce n'est pas simplement l'image et sa qualité qui sont convoquées ici par la métaphore. Certes, une image est toujours partielle par rapport au sujet qui est reflété, mais le face-à-face a ceci de caractéristique et de préférable au reflet qu'il remet l'image dans le bon sens. Et au fond, le face-à-face, qui est un acte d'amour, c'est ce qui permet de redresser les images tordues. Par l'amour, l'homme cesse d'être une énigme parce que non seulement nous avons accès à autre chose que la surface des personnes, des situations, mais aussi parce que l'amour reforme ce qui est déformé par notre vision des choses. Et cela tient au fait que notre regard est passablement pollué, pollué de bien des choses. Parce que nous collons des étiquettes « en voulez-vous, en voilà » sur les personnes qui nous entourent, avant même souvent de les avoir rencontrés, nous surfons allègrement sur les rumeurs. Et bien souvent, notre savoir est surtout une collection de rumeurs. Et nous sommes tellement certains des définitions que nous promulguons que nous avons le sentiment qu'elles disent le tout de la vie. Et que ce n'est même pas intéressant de prendre le temps de s'intéresser à la situation pour découvrir ce qu'est cette situation. Nous nous contentons de ce qui pour nous fait office de totalité. Mais voilà. Mais voilà qu'un visage nous fait face, un vrai visage, non pas simplement un reflet, un vrai visage. Un visage qui n'est pas réduit à sa face visible. Un visage qui, d'un seul coup, nous fait accéder à autre chose que ce que nous avions en tête. Un visage qui demeure infiniment transcendant par rapport à toutes les images que nous pouvions avoir sur la personne en question. Évidemment, c'est Emmanuel Lévinas qui parle de cela le mieux qui soit dans totalité et infini. Il en parle en termes d'épiphanie. le visage qui s'adresse à moi et qui me lance un appel. Il y a un visage qui en appelle à moi et qui rompt avec le monde, qui rompt avec mon monde, avec ma totalité, qui fait une brèche dans mes certitudes. Et aimer, c'est lorsque nous acceptons de laisser tomber nos grilles de lecture, que nous acceptons de laisser tomber les définitions qui définissent ce qui, en réalité, est infini. Aimer, c'est apprendre de l'autre qui il est, au lieu de lui imposer un rôle. C'est aller à la source de la connaissance, en fait. Ainsi, Shakespeare fait-il dire à Don Pedro, dans Much Ado About Nothing, « Mon amour t'enseignera, et tu verras comme il est capable d'apprendre toute leçon difficile qui peut te faire du bien. » L'amour est donc ce ressort, le ressort pour atteindre une véritable connaissance des situations et des personnes. L'amour et non pas le sentiment amoureux. Ce sentiment amoureux dont dès le départ, Paul avait établi une belle disqualification. Parce qu'évidemment, au nom du sentiment amoureux, au nom de tout ce que Paul a décrit, il peut s'en passer des horreurs. Songeons à cette personne qui dirait à son fils ou à son conjoint, « Songe que j'ai donné toute ma vie pour toi, que j'ai donné tout mon cœur pour toi. » Ça, c'est une vraie tyrannie. Ou alors, quelqu'un qui, du haut de sa chair, dirait « Moi et mes études, nous savons nécessairement mieux que vous ce qu'il en est. » Mais tout cela ne sont que des approches de ce qu'est la vérité. Il y a un visage qui s'approche. Et ce visage bouscule mon savoir, le relativise, et il le relativise pour ce qu'il est, seulement une opinion, partielle, qui laisse intacte, en fait, l'énigme qui se présente à moi, et qui chamboule mes catégories, qui chamboule mes certitudes, pour peu que je sois un peu perméable à l'amour. Parce que l'amour peut endurer, il me rend capable de mettre mes pieds dans les chaussures de celui qui s'approche vers moi. Il me rend capable d'un peu d'empathie. Il m'aide à mieux comprendre son univers. Il m'aide à mieux accéder à son intimité, à ce qui le caractérise, à son identité véritable. Ne pas en rester à la surface, mais explorer de l'intérieur, découvrir ce qui évolue, ce qui se métamorphose, ne pas en rester un état figé. Découvrir ce qui est en train de naître chez l'autre, et naître avec lui, connaître. L'amour, c'est ce qui transcende notre savoir figé, totalisant, en une connaissance qui fait droit à la vie qui, elle, ne cesse d'évoluer. L'amour, c'est ce qui conduit l'être par-delà lui-même. Amen. Notre organiste peut en faire des choses avec sa nouvelle console. Bien, c'est l'occasion de remercier Constance Luzzati qui nous accompagne aussi ce matin à la harpe. Et donc, avec Jean-Dominique, nous aurons l'occasion de l'entendre à nouveau tout à l'heure. Pour l'heure, cantique 308, nous allons confier à l'organiste notre chant et à Dieu notre route. place. Avant de partager les informations, je suis saisi d'un rappel au règlement par le président Ducrot. C'est le temps qui veut cela. Nous allons partager la scène. Nous vous rappelons que toutes et tous sont les bienvenus pour partager ce repas qui est un repas de fraternité dont nous n'avons pas le monopole. Donc, par amour, venez, soit partager le pain et le vin, soit simplement partager la présence en faisant passer le pain et le vin. Le rappel au règlement, c'est que ceux qui sont dans la nef accèdent à la table par l'allée centrale et repartent par les allées latérales de manière à créer une fluidité de la circulation. Dans notre agenda, demain, lundi, à 19h30, aura lieu le cours de grec progressant, c'est en face. À 20h30, l'approfondissement théologique, nous en sommes au XVIe siècle, avec Calvin et les prémices de la réforme en France. Le lendemain, mardi, 19h30, c'est la rencontre des étudiants et des jeunes actifs. Il y a un repas partagé pour ceux qui veulent y participer et apporter quelque chose, mais il n'y a pas d'obligation. Et ceux qui seraient intéressés par le thème, nous avons envisagé que ce soit le rapport que le christianisme entretient avec la violence. Le christianisme doit-il être non violent ? C'est pour les étudiants et les jeunes actifs. Je vous laisse le soin de savoir si vous en faites partie ou pas. Mercredi à 20h, c'est la lecture biblique œcuménique. Ce mois-ci, elle aura lieu à Saint-Eustache et elle continue à parcourir le thème de l'année consacré à la foi. À 20h30, pour ceux qui le souhaitent, aura lieu une disputation organisée en commun avec le journal Réforme, à 20h30 en face, Salmono. Disputation sur le droit de vote des étrangers. Et les deux débatteurs, qui sont sur deux lignes différentes, seront Pierre Lelouch, qui est député de la circonscription, et Étienne Pinte, ancien député des Yvelines. Jeudi à 19h30, le chœur aura sa répétition. C'est une répétition ouverte à celles et ceux qui voudraient participer au chant du culte dimanche prochain avec le chœur. C'est ce qu'on appelle le chœur élargi. Dimanche prochain, le culte à 10h30, présidé par Marc. C'est aussi le dimanche de l'éducation biblique. Donc pour les enfants qui ont, disons, à partir de moyenne section de maternelle jusqu'à la fin du collège. Après quoi, ne vous inquiétez pas, il y a le groupe des lycéens qui se réunit le jour même. Voilà pour ce qui concerne nos activités. Et c'est maintenant le temps de l'offrande. L'amour est ce qui brise la totalité et donc donner une offrande par amour.
Nous élevons notre cœur vers le Seigneur. C'est pour nous bonheur et joie de te louer, Dieu notre Père, car tu nous donnes la vie et l'espérance. Tu as envoyé ton Fils et il est devenu notre frère. Tu as envoyé ton Esprit et il est devenu notre paix. C'est pour nous l'évangile de l'émerveillement que toi, Seigneur, tu sois notre Père. Que Jésus-Christ soit le pain vivant donné au monde, que l'Esprit Saint demeure au plus profond, au plus secret de nous-mêmes. Et aussi, nous t'adorons et nous te chantons Éternel notre Dieu.
Pendant que Jésus et les disciples mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur en donna, et ils en burent tous. Il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs ». Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Nous prions. Père, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se trouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Tu nous rassembles et nous invites, par ton esprit, renouvelle notre foi, afin que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de ton Fils parmi nous. Fais toutes choses nouvelles dans notre cœur, dans le monde, de telle sorte que puisse accomplir l'espérance que contient cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples, et que nous te disons, en communion avec tous les membres de ton peuple et en nous levant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
Thank you.
Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Seigneur, je ne suis même pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table. Mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Venez, dit Jésus-Christ, venez, car tout est prêt.
Frères et sœurs, le pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ.
Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de l'Alliance nouvelle qui a été répandu pour chacun de nous.
Frères et sœurs, regagnons nos places dans la joie du Seigneur ressuscité. Nous te remercions, Père, pour le repas que nous avons pris ensemble. Accorde-nous de vivre de cette nourriture, de te célébrer toujours avec joie et d'être ainsi témoin de Jésus-Christ. Frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu. Le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.